y en a certains, je pense, qui tu connais, qui te connaissent. Mais comme ça, ça permet à tout le monde de sentir à l'aise avec toi. Donc, tu es Benjamin, on l'a déjà dit. Marié, anémone avec Ariel.
Oui.
On est très content que tu sois là avec nous ce matin. Explique-nous un peu qu'est-ce que tu fais dans la région, parce que c'est pas tes terres d'origine, ça.
Voilà. Nos terres d'origine, c'est dans l'est, le nord-est de la France. On vient de Alsace-Franche-Comté. Moi, je suis d'origine suisse. Et on est. Je suis suisse, mais j'ai grandi en Franche-Comté, anémone et alsacienne de Côme. Après avoir habité un moment dans le Haut-Doubs en Franche-Comté, on s'est formé, on a fait l'Institut biblique de Genève, et à la suite de cette année, on a continué en fait dans un stage pratique de 2 années à l'église CAF d'Istres, donc pas loin d'ici, c'est ce qui nous a ramené en fait dans le sud. Et à la fin de ce stage, on a été conduit pour prendre en main le projet pour implanter une nouvelle église à Salon-Provence. Donc c'est pour ça qu'on est ici maintenant. On termine nos études cette année à l'Institut biblique de Genève et on est en collaboration avec les CAF dans ce travail d'implantation d'église à Salon.
Avec Lynn et Edouard.
Exactement, oui. Dans notre équipe, on travaille avec Lynn et Edouard de manière rapprochée. C'est vraiment nos vis-à-vis dans cette mission-là.
Super. Donc, pour situer tout le monde, ceux qui sont venus déjà régulièrement à nous aider pour les journées des enfants, journées de prière. Donc, je suis content. J'allais poser une question. Oui, Salon-Provence, c'est à peu près combien d'habitants?
C'est 44 000.
Et donc il y a quelques églises, mais il y a encore. Si on vise une pour 10 000, il faudrait encore combien d'églises en fait à ça?
Il y en a deux, dont une qui est en train de s'éteindre. Donc il en faudrait 3.
Ok. Voilà. On vise 3 églises. Vous êtes en train seulement, mais voilà. Content même avec une. Ça montre juste les besoins.
Ouais, voilà. Ça, c'est les objectifs du CNEF, une église pour 10 000 habitants. Mais si déjà il y avait 2 églises vivantes et voilà, qui soient visibles à Saint-Provence, on serait déjà content. Et il faudrait ensuite continuer, mais par rapport à la moyenne nationale, voilà, commencer quelque part.
Ok. Super. Ben, on va prier pour ça. Je vous invite à prier encore au-delà de cette journée pour faire de bien en aimant et de les autres. Que l'évangile progresse aussi là. Je pense que ça va bénéficier de toute la région. On a intérêt, nous-mêmes ici à Carillon, à avoir plein d'églises centrées sur l'évangile et la parole de Dieu. On est très content que tu sois là pour ce matin, d'avoir pu voir.
Merci de m'appeler et de me laisser la parole. Alors, j'ai eu à cœur ce matin de prendre un texte fondateur. C'est, vous l'avez sur vos fiches, Genèse 11, l'histoire de Babel. Alors, certainement, beaucoup d'entre vous, ou presque tout le monde, connaissent cette histoire. Ça m'a fait penser à un lac. Un lac dont la surface est parfaitement lisse. Il n'y a pas un brin de vent pour venir brouiller cette surface. Est-ce que vous imaginez ce lac. Il pourrait ressembler à ça. Voilà, une étendue parfaite, une étendue d'eau parfaite. Imaginez maintenant une goutte de pluie qui tomberait au centre de ce lac. De cette goutte, des anneaux d'eau se propageraient du centre jusqu'aux extrémités du lac. Alors normalement, j'avais une petite vidéo, mais ça ne fonctionne pas. Donc. Tant pis pour la vidéo de la goutte d'eau au ralenti, c'est pas grave. On s'imagine. Deux mouvements distincts de l'eau. Ce matin, on lit une histoire dans laquelle on voit deux grands mouvements. Et pendant que je vais faire la lecture de ces 9 versets, chapitre 11, versets 1 à 9, je vous invite à repérer ces deux grands mouvements dans le texte que nous lisons maintenant. Je lis Genèse 11, 1 à 9. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéa, et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, « Allons, Faisons des briques et cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre, et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la surface de toute la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue, et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons et là, confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Et l'Éternel les dispersa loin de là, sur l'espace de toute la terre. Et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre, et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Alors, où est-ce que cette histoire se situe ? On arrive là, directement, on saute à Genèse 11. Vous avez sans doute entendu parler de l'histoire de Noé, qui a échappé au déluge que Dieu avait envoyé sur toute la terre. Dieu donne un ordre de mission à Noé et à ses trois enfants et à leurs femmes. Cet ordre de mission, soyez féconds, multipliez et remplissez la surface de la terre. Alors, le dernier fils de Noé, c'est Cham. Et c'est un homme rebelle. En fait, il y a qu'une slide, en fait, parce que j'avais mis un automatisme, mais dans le PDF, je peux revenir à Noé. Cham, tu peux revenir à la prochaine. Ouais. Voilà. Le fils de Noé, Cham, vous voyez là, et on apprend que c'est un homme rebelle. Et l'un des descendants de Cham, c'est Nimrod, dont il est dit qu'il devint le premier homme puissant sur toute la terre, et on sait que c'est le constructeur de la ville de Babel. Alors ce Nimrod va régner sur tous les hommes de la terre, et dans son règne, il va entraîner toute la terre dans ses projets. Cette histoire concerne donc les descendants de Noé. On arrive maintenant à notre texte, et je vous propose de voir ces deux temps, ces deux grands mouvements de l'histoire. Le premier temps, l'homme conduit selon ses projets. Et le deuxième temps, l'homme conduit selon les projets de Dieu. Nous voyons, l'homme conduit selon ses propres projets. Quand la goutte rencontre la surface de l'eau, le premier mouvement qui suit la descente sous la surface de l'eau est un mouvement d'élévation vers le ciel. Dans notre texte, il est dit que les hommes de cette génération-là parlaient la même langue, ne formaient qu'un seul peuple à un seul endroit. Pourtant, Dieu avait demandé aux hommes de remplir toute la surface de la terre. Au lieu de se disperser sur toute la surface de la terre, ils se rassemblent en un seul point, en un point concentré. C'est pas naturel de se séparer pour aller vers l'inconnu. Sauf peut-être dans ces films, un peu qui se passe dans un vieux manoir où il y a un groupe de personnes et il y a quelqu'un qui dit « Je vais aller tout seul au grenier voir ce qui se passe. » Et en général, cette personne ne revient jamais. Mais c'est pas naturel. Il y a un truc qui cloche aussi. Il n'y a que dans les films que ça se passe. C'est pas naturel de troquer le connu pour l'inconnu. Mais finalement, je trouve qu'on ressemble pas mal à nos ancêtres. Ils tendent à rester ensemble, groupés. En faisant comme ça, l'homme poursuit et dit « Allons, bâtissons-nous une ville. » Alors, quand on voyage, en général, on passe d'une ville à une autre ville. On peut éventuellement aspirer à passer d'un lieu désert à un autre lieu désert, ou un lieu sauvage, mais c'est plutôt inhabituel, c'est assez temporaire. À la fin de notre tour, on aura tendance à revenir dans un lieu civilisé, un endroit habité. Et c'est peut-être paradoxal, mais on se sent beaucoup plus en sécurité là où il y a de la vie. On ressemble étrangement à nos ancêtres. Ils parlent le même langage et ne forment qu'un seul peuple. Alors ils se mettent à construire une ville, une grande ville. L'inverse de la ville, alors là vous voyez un tableau de Abel Grimmer au XVIIe siècle qui représente Babel, mais on voit une organisation, une ville, voilà, ça grouille, ça fourmille. L'inverse de la ville, c'est la nature. Et on sait que la nature, c'est un environnement contre lequel l'homme doit se battre pour subsister. Il doit se battre contre les bêtes dangereuses ou les bêtes sauvages. Il doit se battre contre le froid ou contre la chaleur. Il doit se battre contre l'absence d'eau ou alors contre la surabondance d'eau. Il doit se battre contre la nature. Et on l'a vu, hein, on le voit un peu plus tôt dans le livre de Genèse, au chapitre 3, que c'est à partir du moment où l'homme a voulu prendre l'indépendance, son indépendance par rapport à Dieu, qu'il doit maintenant affronter une nature hostile. Donc la ville représente la sécurité de l'homme face à un environnement devenu hostile. L'homme se regroupe à Babel, et Babel, on sait que c'est l'origine de Babylone, la capitale mondiale du commerce, la ville qui grouille de vie, le symbole de la puissance humaine. Pourtant, Dieu avait demandé que l'homme remplisse toute la surface de la terre. Une ville et une tour. Allons, bâtissons-nous une tour qui touche au ciel. Quand on était petit, on disait qu'on allait sauter tellement haut qu'on allait toucher le ciel. Et puis on s'est tous rendu compte qu'en fait le ciel commence à la surface du sol, même si on ne connaît pas la fin, si on ne peut pas déterminer les limites du ciel et la fin du ciel. Dans cette volonté de l'homme d'ériger une tour qui touche au ciel, on voit ce désir de monter vers ce qui est élevé, de monter vers ce qui est haut. Et cette génération-là aspirait à une autre relation que la relation horizontale, la relation humaine. Cette génération était en quête spirituelle. Elle avait besoin d'une transcendance, c'est le mot qu'on emploie, d'une relation verticale. Elle avait compris que le ciel et les astres qui s'y trouvent sont au-dessus et que ce qui est au-dessus est plus grand, plus élevé. Peut-être que dans ce qui est plus grand, trouvait-il l'accès à une protection d'en haut. Finalement, ces étoiles qu'il n'arrivait pas à toucher, peut-être qu'elles avaient une puissance supérieure et elles allaient pouvoir apporter une protection. Peut-être que ces astres possèdent un pouvoir de vie ou de mort sur l'humanité. Peut-être que ces astres nous ont créés. Peut-être que ces points brillants étaient des dieux vivants. Peut-être que c'était des dieux puissants pour créer ou pour détruire. Ils avaient peut-être des sentiments pour aimer ou pour haïr. Peut-être que dispersés dans le ciel, ils attendaient patiemment que les hommes les remercient, leur offrent des sacrifices. Ils attendaient patiemment que les hommes leur vouent un culte. Et finalement, je me rends compte qu'on a été un peu bercé dans ce genre de compréhension. On a tous une étoile qui nous protège. Vous savez, la bonne étoile. On dit aussi que quand un enfant meurt, c'est une nouvelle étoile dans le ciel. Certains pensent que les étoiles filantes sont des anges précipités sur la terre. On ressent vraiment de plus en plus à nos ancêtres. Ils prient le ciel et ils implorent sa protection. Alors, au pays de Shinéar, on a retrouvé des pyramides faites de paliers qui s'élèvent vers le ciel. Le nom qu'on leur donne, c'est des ziggourats. Le dernier étage de ces paliers était réservé aux sacrifices. On pourrait comprendre que le sommet de cette tour était avec le ciel. Le premier mouvement de ce texte nous parle de l'homme qui s'élève vers le ciel, et j'ai pensé à l'image de cette goutte dans son élan naturel. Elle s'élève vers le haut, comme si elle voulait retourner d'où elle vient, mais par elle-même. Au sommet de ces ziggourats, on a retrouvé les signes du zodiaque, les astres dominant notre planète. Dans le ciel et sur la tour, les astres. Voilà une compréhension possible de ce qu'est une tour qui touche au ciel et qui en dit long sur les croyances de ces générations-là. Quand on est au sommet d'une ziggourate, on a l'impression d'être plus près du ciel et l'éclat des étoiles est énorme. Aujourd'hui, on a peu l'occasion d'observer le ciel parce qu'on vit dans une grande pollution lumineuse. Lors d'un trajet en covoiturage, j'ai rencontré un homme qui était retraité, était ingénieur, ex-ingénieur IGN, chez IGN. Et il a passé plusieurs années de sa vie à cartographier le désert du Sahara. Et il m'a dit que c'est le plus beau souvenir qu'il garde de sa vie. Il m'a dit, je paierais cher pour retourner dans ces conditions, être isolé au milieu du désert du Sahara, à contempler ce ciel étoilé. En fait, on doit redécouvrir un peu ce qu'est le ciel, parce qu'on vit dans des environnements complètement habités. Et avec voilà, cette pollution lumineuse, on a perdu un petit peu cet éclat du ciel. Mais eux, à cette époque-là, ils n'avaient pas de lampadaire, ils étaient sous ce ciel étoilé. Une humanité dont la sécurité ne dépend que de lui et de son pouvoir d'atteindre le ciel. Cette vile sécurité est dominée par une tour qui touche au ciel. Et devant la beauté de ce ciel, l'homme s'attache à ce qu'il voit plutôt qu'aux paroles de Dieu. Il est dit un petit peu avant notre texte que Nimrod était un vaillant chasseur devant l'Éternel. Et l'histoire nous permet de comprendre que la traduction qui serait plus... disons que ce que ça signifie en fait, c'est que Nimrod est le terroriste qui chasse le culte de l'Éternel. Le vaillant chasseur devant l'Éternel, peut-être Nimrod est celui qui chasse le culte de l'Éternel. Voilà ce que nos ancêtres, poussés par eux-mêmes, ont fait. Ils ont chassé le culte monothéiste, la connaissance du Dieu unique, créateur de toutes choses, pour le remplacer par le culte à plusieurs ou pour plusieurs dieux. Nimrod a en fait été le précurseur du polythéisme. À partir de Nimrod, on a commencé à offrir des sacrifices aux astres, à offrir des sacrifices aux dieux. Après s'être regroupé, après avoir construit une ville et un accès vers le ciel, l'homme dit « Allons, faisons-nous un nom pour ne pas être dispersés. » Dans ce désir de se faire un nom, il y a la volonté d'indépendance. C'est comme si les hommes connaissent le nom de Dieu dans lequel tout réside et qu'ils voulaient se faire leur propre humanité. Une résidence de eux, pour eux, une résidence par eux-mêmes. Une humanité séparée de Dieu, une humanité seulement humaine. Et c'est intéressant de noter que finalement l'humain a quand même conservé un culte. De tout temps, de toutes origines, les hommes ont adoré un ou des dieux. Ils ont adoré quelqu'un ou quelque chose. Ils ont eu un objet d'adoration. Donc on voit ce besoin de transcendance qui est en nous. Depuis Babel, l'homme est monté de plus en plus haut dans le ciel. Il est descendu de plus en plus bas, sur la surface, plus sur le ciel. La conquête de l'Everest, la conquête du ciel, la conquête de l'espace. Pourtant, l'homme n'a jamais réussi à atteindre Dieu par ses propres efforts. Et c'est d'ailleurs la raison qui pousse certains à dire « On est allé partout dans l'univers, on n'a pas vu Dieu. » Donc, Dieu n'existe pas. Quand on adhère à la croyance du néant, on s'attache très très fort à ce qu'on voit. On croit très très fort dans l'humain. Et comme une conséquence, on met toute sa joie et son espérance dans ce qui est visible. On vient d'une certaine manière pratiquer un culte envers les choses visibles, envers tout ce qui est créé. Un culte envers la création. Finalement, on adore la créature et la création au lieu d'adorer le créateur, celui qui a fait, qui a appelé à l'existence, comme on a lu en introduction tout de suite. Celui qui a appelé à l'existence les choses qui sont. Alors aujourd'hui, l'homme se place un peu au centre de toute la création et il se contemple lui-même. Il pense même que c'est lui qui s'est fait tout seul. Voilà ce qu'on entend. Alors, dans une lueur de bon sens, il constate, l'homme constate que son comportement égoïste pendant toutes ces années l'ont mené au bord de la faillite, une faillite économique, une faillite écologique, mais dans un aveuglement. Il conclut que la solution se trouve en lui-même. Il est temps de changer de comportement, dit-on. Dans une illusion qui reflète en fait un orgueil, on pense que la science et les progrès vont finalement nous révéler la source de la vie et nous permettre de créer la vie même. Peut-être même la résurrection et peut-être même l'immortalité. On en parle de plus en plus avec le transhumanisme. On voit que c'est ce qui pousse la science à faire des recherches et à aller de plus en plus loin. On vit dans cette illusion qu'on va un jour maîtriser la vie. On ressemble étrangement à nos ancêtres. Aujourd'hui, vous l'avez compris, la tour de Babel ne cesse de s'ériger, de grandir dans les cœurs. Et cela se voit dans notre manière de vivre. On aspire à se faire un nom pour tenter de vivre éternellement par nos propres forces. En réponse à l'homme qui s'élève vers le ciel en disant « Allons !» On lit à partir du verset 7 que Dieu descend du ciel vers l'homme en disant « Allons, descendons sur la terre. » Il y a une symétrie d'action, mais il y a deux directions complètement opposées. À l'inverse des aspirations humaines d'élévation, Dieu qui est élevé au plus haut point par sa nature divine s'est abaissé pour venir dans cette humanité. Comment Dieu a-t-il pu s'abaisser? Il a pris une forme de créature. Il s'est rendu semblable à nous dans notre humanité. Je lis quelques extraits de la parole concernant l'œuvre de Dieu qui s'abaisse jusqu'à nous. C'est des extraits que j'ai mis ensemble. Existant en forme de Dieu, il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Homme de douleur et habitué à la souffrance, nous n'avons fait de lui aucun cas. Pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Et nous l'avons considéré comme puni. Frappé de Dieu, humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Là où ma nature humaine cherche à s'élever, à s'ériger vers le haut, Dieu, dans sa nature divine, s'est abaissé. C'est incompréhensible, mais c'est absolument nécessaire pour que nous échappions à la juste colère de Dieu qui s'abat contre toute injustice. Le premier mouvement est un mouvement d'élévation de l'homme conduit selon les projets, ses propres projets. Et nous arrivons à notre deuxième point. L'homme conduit selon les projets de Dieu. Quand l'élévation atteint son apogée, le mouvement suivant est un retour vers le bas. Et cette action va créer des anneaux concentriques qui vont aller du centre de l'action vers les extrémités de l'étendue. Jusque-là, on avait un Dieu unique. Jusque-là, on avait une langue unique. Mais conduit par son orgueil d'autonomie et de rébellion, on a plusieurs dieux. Plusieurs dieux, plusieurs croyances. Donc, plusieurs pratiques religieuses, plusieurs pratiques différentes. Et peut-être différentes manières de dire les choses, différentes manières de vivre, différentes manières d'expliquer les choses. Peut-être on a plusieurs langues, qui se crée à son âme. C'est la malédiction de Dieu envers l'homme qui conduit sa propre vie comme il l'entend. L'homme naturel n'arrive pas à rester uni très longtemps. Chacun veut faire comme il lui semble bon. Et si on regarde ça avec un peu de recul, on s'aperçoit que l'homme est conduit par Dieu, même contre son propre gré. Et finalement, l'homme accomplit l'ordre que Dieu avait donné premièrement à Adam et Ève, et ensuite à Noé. Soyez féconds, multipliez et remplissez la surface de la terre. Dieu disperse les familles de l'humanité sur toute la surface de la terre comme un cours d'eau qui serait divisé en de multiples rivières, un peu à l'image d'une pomme d'arrosoir qui disperse l'eau. Une eau dont la nature est polluée, des peuples rebelles à Dieu. Le deuxième mouvement de notre texte est le mouvement de l'humanité dont Dieu dirige l'histoire. Les différentes langues dans ce texte sont plutôt une punition pour l'homme. Le point que j'aimerais faire, c'est que ces langues différentes, en tout cas dans ce texte, nous sont présentées comme une malédiction. Imaginez quel sentiment ça procurait pour un citoyen français des années 40 quand il entendait parler allemand autour de lui. C'était pas bon signe. Ici, dans ce texte et dans tout l'Ancien Testament, les langues étrangères sont un signe de malédiction. Babel en hébreu, c'est Baal, qui signifie confondre. Dieu confond ceux qui ne bâtissent pas leur vie selon Dieu. Dieu confond ceux qui ne bâtissent pas leur vie selon Dieu. Voilà pourquoi le jour de la Pentecôte, c'est l'annonce de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, mort et ressuscité, mais qui est fait dans toutes les langues étrangères. Voilà pourquoi ce jour-là est un signe de bénédiction pour les nations, car Dieu enfin se révèle désormais aux hommes de toute famille sur la terre. La bonne nouvelle est annoncée, elle est enfin accessible à tous les hommes. Dieu a pourvu à un seul sacrifice pour que par lui, nous ayons la vie en abondance. Et on parle bien sûr de la vie éternelle. Mais cette bonne nouvelle n'est bonne que pour ceux qui la reçoivent. Et on lit un passage qui nous parle de l'odeur de Christ. Et on découvre que l'odeur de Christ est une odeur de vie pour les uns. Et aussi une odeur de mort pour les autres. Quelle odeur est-ce que la bonne nouvelle de l'évangile de Christ renvoie pour toi? Je prie, c'est ma prière, que l'odeur du salut en Christ fasse émaner de nous tous ici, une odeur de vie. Un jour, longtemps après ce texte, il y aura un temps où cette malédiction aura complètement disparu, le temps où toutes les ethnies entendront le message de l'Évangile dans leur propre langue. Ce temps n'est pas encore achevé. Aujourd'hui, on estime à 4000 ethnies pour lesquelles la Bible n'est pas traduite. Ce texte nous apprend que si nous construisons notre pensée, notre vie sans Dieu, nous sommes voués à l'échec. Psaume 127, verset 1. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Babel, c'est Babylone, dont les ruines se situent à côté de Hilla, c'est à 100 km au sud de Bagdad, c'est à côté, pas loin, du fleuve l'Euphrate. Babylone, aujourd'hui, c'est une ruine. Mais Babylone signifie plus qu'une cité. Babylone, dans la Bible, c'est le symbole de la puissance humaine, du réseau humain qui apporte la sécurité. Babylone, c'est toutes les villes construites par l'homme pour se faire un nom, une espérance. Les fortifications les plus puissantes de ces villes se trouvent dans un lieu que personne ne peut détruire sauf Dieu. ce lieu, on l'a dit précédemment, et vous ne cessez de comprendre que c'est notre cœur naturel, le cœur de l'homme sans Dieu à l'intérieur. L'homme ne peut se faire un nom au ciel par ses propres efforts. Ça signifie qu'on ne peut pas se sauver soi-même, ni par notre manière de vivre, ni par aucune qualité intrinsèque en nous. À Babel, les hommes se font un nom. Dans la suite de l'histoire de l'humanité, Dieu va se révéler et va donner un nom. Dieu va donner le seul nom capable de sauver l'homme de sa misère. Hors de ce nom, il n'y a pas de vie. On parle de la vie éternelle. Il n'y a de salut en aucun autre qu'en Jésus-Christ. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Acte 4. Ce nom, c'est plus qu'un mot de passe. C'est une personne. Ce nom, c'est Jésus-Christ. Son œuvre d'amour souligne à quel point son désir est que nous le connaissions, qu'on le connaisse personnellement. Et si c'était le cas pour une personne dans cette salle, même une seule personne dans cette salle, je prie que... Enfin, voilà, j'en appelle à un jour supplémentaire de grâce. Un jour où cette bonne nouvelle de l'espérance, de la vie en abondance, en Christ, est encore accessible. C'est encore un jour de grâce pour recevoir l'architecte de ta vie. À l'époque de Babel, des nations vont se distinguer et Dieu va distinguer une nation, un cours d'eau. Il va choisir un de ces petits cours d'eau pollués comme les autres pour le rendre pur et faire jaillir de lui l'antidote capable de purifier les hommes de toute race, de toute tribu, de toute langue. Ce texte nous parle de la place des nations dans le plan de Dieu. De ces nations, il se fera un peuple d'adorateurs qui sera au dernier jour rassemblé dans une ville. Mais cette fois-ci, la ville, elle ne sera pas construite par des hommes. Elle sera construite par Dieu lui-même. Je parle de la nouvelle Jérusalem. Aujourd'hui, en tant que peuple de Dieu, on n'a pas seulement le mandat de peupler toute la surface de la terre, mais de faire de toutes les familles de la terre des adorateurs de Dieu en esprit et en vérité. On est appelé à faire des enfants spirituels. Dans le livre des Actes, après avoir annoncé la bonne nouvelle de l'Évangile à toutes les nations représentées à Jérusalem, finalement la communauté chrétienne va subir la persécution et va devoir quitter Jérusalem. Et ces jeunes disciples de Christ vont se disperser sur tout le territoire. Comme le mouvement de Babel vers les nations du monde, on a ce même mouvement de Jérusalem vers les extrémités de la terre. Mais cette fois-ci, ce n'est pas une malédiction, c'est une bénédiction. Dieu se révèle aux nations et ce faisant, il nous rend participants à sa mission. Alors, la question pour nous aujourd'hui. En tant qu'Église, est-ce que notre réflexe n'est-il pas de nous retrouver entre nous, de rester dans l'Église, de cultiver les liens forts uniquement avec d'autres chrétiens et éventuellement même des chrétiens qui pensent comme nous? On aime se retrouver avec ceux qu'on connaît déjà, avec ceux pour qui le contact passe bien, ceux qui nous connaissent ou pour qui on n'a plus rien à prouver. Mais ce texte nous encourage à aller, nous dit le Seigneur. Dans notre église, dans notre assemblée, allons à la rencontre les uns des autres. Dans notre village, allons à la rencontre de ceux qui nous entourent. Dans nos activités, allons à la rencontre. Dans nos loisirs, dans notre quotidien, allons. Je rêve d'une église. Je rêve que l'église n'existe pas pour elle-même, mais pour sa ville, pour les marginaux, pour les moqueurs. Je rêve d'une communauté qui n'ait pas peur de donner sa vie pour une communauté plus grande qu'elle-même. cette Église, elle n'est pas soudée par un élan humain, mais par la puissance de l'Esprit de Dieu. C'est l'Église de Christ que nous expérimentons au quotidien quand Christ est notre Seigneur et dans nos rencontres communautaires pour célébrer que Christ est notre espérance. C'est ce que nous disons, c'est ce que nous voulons. Je rêve que l'Église de Christ répande l'odeur de Christ partout sur la terre. Ça commence ici, dans nos cœurs, dans nos maisons. Alors, de quoi rêvons-nous pour notre vie, pour notre communauté? Et en disant ça, je dois me rendre à l'évidence que je suis tellement petit dans mes rêves pour Dieu. Heureusement, Dieu nous aime comme on est, mais il nous aime trop pour nous laisser barboter dans notre pataugeoir sur mesure. Il veut qu'on se lance sur les eaux de la vie, comme Jésus qui marchait sur l'eau. Pour marcher sur l'eau, on doit lui faire confiance et ne pas le quitter du regard. Il ne s'agit pas de construire notre vie selon notre pensée humaine, mais selon son enseignement. Car celui qui s'élève sera abaissé, mais celui qui s'abaissera élevé. Est-ce qu'on entend sa voix ce matin? Est-ce qu'il nous appelle à sortir de notre sécurité et à venir à sa rencontre selon les projets qu'il a préparés pour chacun de nous? Matthieu 28, 19 à 20, je lis, j'ai un peu paraphrasé le texte. Allons, faisons de toutes personnes des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignons-leur à observer tout ce que le Seigneur Jésus nous a prescrit. Et voici, Jésus-Christ lui-même est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je vous invite à un temps de silence, un temps de réflexion. Et après quoi je prie. Seigneur Dieu, nous sommes confondus ce matin par ce texte dans notre nature propre. Oui, notre nature propre, notre tendance naturelle est de nous élever et même on n'hésite pas à rabaisser les autres pour ça. Et on voit que dans ta nature, toi tu t'es abaissé. Mais Seigneur, on veut se réjouir aussi que dans cet abaissement, tu as pourvu que nous soyons transformés dans notre nature, transformés dans notre identité. Et nous voulons nous réjouir de ce que tu nous as appelés à être tes enfants, que tu nous as adoptés. Nous voulons nous réjouir de ce que ton esprit habite en nous, et ton esprit habite dans ceux qui te reconnaissent comme leur seule espérance. Et alors nous voulons collaborer avec cet esprit. Nous voulons suivre ce même mouvement de Jérusalem vers les extrémités du monde, mais pas comme un châtiment, mais comme une bénédiction. Nous voulons marcher dans ta direction, dans ta volonté. Nous voulons être soumis, nous voulons t'obéir, pas parce que nous y sommes contraints, mais parce que nous savons aimer et qu'en retour, nous voulons t'aimer aussi et faire ce qui est bon. Merci parce que tu as des plans, des projets d'amour, des projets de paix pour chacun d'entre nous. Ces projets, c'est que nous soyons des témoins que tu es vivant et que tu donnes la vie en abondance. Fais-nous cette grâce, Seigneur, de le vivre dans cette journée, dans cette semaine qui s'ouvre devant nous. Je te remets encore cette communauté. Je te remets cette communauté en assemblée. Je te la remets aussi dispersée dans Cavaillon et aux alentours. Que tu donnes à chacun des opportunités par des petites choses, par une manière de vivre, d'être des témoins de Jésus-Christ, mort et ressuscité, pour apporter la vie éternelle à quiconque croit en lui. Sois glorifié, Seigneur Dieu, dans nos cœurs et dans nos vies, comme tu l'es déjà dans le ciel. Amen.